Ce matin, donc, je vais continuer ma série sur la vulnérabilité. Alors, c'est vrai que je vais parler d'un sujet qui semble a priori dramatique, triste, la mort. Mais en réalité, c'est plus pour voir comment nous, en tant que croyants, nous abordons cette échéance. Parce que, bon, quand même, soyons réalistes, c'est pas parce qu'on est chrétien qu'on est... qu'on plane dans les stratosphères, on est très réaliste et on sait que cette échéance, elle est pour chacun de nous. Elle arrivera plus ou moins vite. Alors bien sûr, on aspire à ce que ce soit le plus tard possible, mais finalement, est-ce que c'est vraiment ça la vraie question? Je ne pense pas. Alors, on va lire deux textes. Premier texte qui se trouve au psaume 39, les versets 1 à 8. Et le deuxième texte dans le Nouveau Testament, Jacques chapitre 4, versets 13 à 17. Donc le premier texte dans les psaumes, psaume 39. Ô chef des chantres, à Jedutum, psaume de David. Je disais, je veillerai sur mes voies, de peur de pécher par ma langue. Je mettrai un frein à ma bouche, tant que le méchant sera devant moi. Je suis resté muet dans le silence, je me suis tu, quoique malheureux. Ma douleur n'était pas moins vive, mon cœur brûlait au-dedans de moi, un feu intérieur me consumait, et la parole est venue sur ma langue. Éternel, dis-moi, quel est le terme de ma vie ? Quelle est la mesure de mes jours ? Que je sache combien je suis fragile. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main, et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. Oui, l'homme se promène comme une ombre. Il s'agite vainement, il amasse, et il ne sait qui recueillera. Maintenant, Seigneur, que puis-je espérer ? En toi est mon espérance. Et puis, un deuxième texte, donc, dans le Nouveau Testament, l'Épître de Jacques, chapitre 4, versets 13 à 17. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Car qu'est-ce que votre vie ? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Alors, bien sûr, ces deux textes nous parlent de notre fragilité. C'est le thème donc de cette série, la vulnérabilité. Et parce que justement nous sommes chrétiens, nous devons être lucides et avoir regardé la vie en face. Et bien sûr, c'est cette échéance, la précarité de notre vie. Alors je sais qu'aujourd'hui, l'espérance de vie a tendance plutôt à se rallonger. D'ailleurs, il semblerait que l'espérance de vie des hommes se rapproche un peu plus de celle des femmes. Certains disent que c'est parce que les femmes ont des conduites à risque aujourd'hui, le tabagisme, l'alcool, la voiture, etc. C'est possible, mais enfin bon, 70, 80, 85, 90, bon, voilà. Est-ce que c'est ça notre espérance, d'essayer de gagner quelques mois ? Tant mieux pour ceux qui les vivent bien, c'est quelques mois en plus, mais c'est pas toujours le cas. Assurez-vous, je visite des personnes en EHPAD et je peux vous dire que ce n'est pas toujours gai, ce que je vois. Mais on assiste, c'est vrai, aujourd'hui à un déni de la mort. Il y a un livre qui était sorti dans les années 70 d'Elisabeth Kübler-Ross, Les derniers instants de la vie, où elle parlait des étapes d'acceptation de la mort. Ça commence par la colère, le déni, le refus, puis la négociation, puis finalement l'acceptation pour les gens qui étaient en fin de vie. Comme je le dis souvent, tout le monde sait qu'il doit mourir, mais personne n'y croit. Il est toujours difficile de parler aujourd'hui encore de la fragilité de notre vie, notamment de notre fin de vie, de notre propre mort. D'ailleurs, la mort est cachée, c'est la première chose que je voudrais dire. Elle est souvent cachée, occultée. On ne veut pas la montrer. Et puis aussi, le mot mort lui-même est souvent euphémisé, c'est-à-dire qu'on va chercher des mots pour édulcorer, pour dire autre chose que ce que ça dit vraiment. Y compris d'ailleurs dans le jargon évangélique, on dira plutôt « il est parti, il nous a quittés ». C'est vrai, tout ça, c'est vrai. « Il est allé rejoindre la patrie céleste, il est avec son Père céleste, il est au ciel ». Bon, il est mort, quoi. Voilà. Mais les morts sont vivants. Il y aura un jour une résurrection et un jugement dernier où Dieu amènera toutes choses à un jugement. Alors, autre chose que je voudrais dire, au-delà du déni de la réalité de la mort, c'est que souvent l'homme se croit seul maître à bord. L'homme se prend pour le capitaine de sa vie. Et le texte que nous avons lu de l'épître de Jacques nous montre que l'homme ne peut envisager d'être stoppé dans son élan, dans ses projets. Et plutôt que d'envisager la possibilité qu'il y aura un terme, finalement, ou que bien ce qu'il projette ne se déroulera pas comme lui il a envie que ça se déroule, il préfère dire « aujourd'hui » ou « demain, je ferai ceci, je trafiquerai, je gagnerai ». Bref. On voit bien que nous ne pouvons envisager une fin à tout ce que nous faisons, à tout ce que nous aimerions faire ou à tout ce que nous rêvons de faire. Nous ne pouvons envisager même une fin à notre propre vie. C'est quelque chose qui est mystérieux, qui peut nous faire peur aussi. En même temps, il est normal, je dirais, pour revenir sur ce texte de Jacques, d'avoir des projets, d'avoir des désirs, bien sûr, une volonté d'aller de l'avant sans désir, sans envie, on ne fait rien. Mais avant de dire aujourd'hui ou demain, pensons à celui qui est le maître des horloges, maître du temps, à Dieu. Commençons par remettre nos vies entre les mains souveraines de celui qui nous l'a confié. Commençons nos journées en lui exprimant notre reconnaissance. Dès que nous posons le pied en sortant du lit, commençons à lui dire « Seigneur, c'est toi qui me donnes le souffle de la vie. Seigneur, je te recommande ma vie. Seigneur, voici le jour que tu as fait. » Ce fameux chant, « Voici le jour que tu as fait. » Étonnamment, on commence à voir de plus en plus, je traîne souvent dans les librairies, tout ça, je regarde un peu ce qui sort dans les rayons de développement personnel, de spiritualité. Et on voit de plus en plus chez nos contemporains, croyants ou non d'ailleurs, une attitude moins arrogante, plus humble vis-à-vis de nos modestes existences. Ainsi, on voit apparaître de plus en plus de livres, de témoignages de personnes qui ont traversé des épreuves difficiles, des cancers, qui ont dû lutter et qui, de façon très touchante, racontent leur combat. Et du coup, la fragilité, le discernement qu'ils ont, la lucidité nouvelle qu'ils ont, l'éclairage qu'ils ont sur la vie. Et on voit donc pas mal de livres sortir dans ce sens-là. Ces gens qui livrent leur cœur, leur expérience après avoir lutté. Toutes ces personnes reviennent à des sentiments beaucoup plus modestes. Je remarque, plus humbles, voire plus spirituels. Alors, toutes ne se convertissent pas à la foi chrétienne, mais deviennent en recherche, plus curieuses justement sur la foi. Elles apprennent désormais à apprécier davantage aussi l'instant présent, dans sa simplicité, voyant leur vie comme un cadeau, un privilège, voire une grâce reçue. De nombreux titres de livres témoignent de cela. On a par exemple le livre du philosophe Alexandre Jolien, je ne sais pas si vous le connaissez, il est très handicapé, il a du mal à parler, il est passé à certaines émissions télévision, et il a écrit un livre qui s'appelle « Éloge de la faiblesse », celui du théologien catholique aussi, Gabriel Ringlet, « Éloge de la fragilité ». Mais la contrepartie, je remarque, de ce retour à l'humilité et à la lucidité, c'est qu'on assiste à une sorte de survalorisation de la faiblesse humaine, qui a pour conséquence qu'on élève la fragilité, la faiblesse au rang d'une vertu à entretenir, d'un courage d'être. Je remarque étonnamment aussi qu'aujourd'hui, les héros sont plus les victimes que les sauveurs. C'est étonnant, bien sûr. Il faut s'occuper des victimes, il faut avoir de la compassion, ce n'est pas mon propos ce matin. Or, nous le savons, nous qui croyons aux Écritures, parole de Dieu, la Bible, cette mort, c'est un autre point que je voudrais souligner, cette mort qui nous habite dès notre venue à l'existence, je le précise, et qui nous accompagnera tout au long de notre vie, est la conséquence d'un jugement divin. Genèse 3. Il n'y a là rien de glorieux et encore au moins une vertu à entretenir, un bon stoïcien que nous serions ou devrions être. Mais c'est vrai qu'il y a aussi la posture inverse, ceux qui, par déni de la mort, parlent de l'homme augmenté avec les progrès de la science. Il y en a même aux États-Unis, il y a des sociétés, ils se cryogénisent, hein, en vue de, ben, un jour peut-être, dans 100 ans, les progrès évolueront, on pourra les faire revenir à la vie et ils pourront continuer leur vie. Ou augmenter le transhumanisme. Alors cette vulnérabilité qui nous conduit à la mort, elle n'est pas une valeur en soi, une vertu à développer, mais une modalité, c'est un autre point, une modalité de l'existence humaine. Et c'est ce que nous dit le psaume 39 qu'on a lu tout à l'heure, au verset 5. « Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie. Dis-moi quelle est la mesure de mes jours. » Autrement dit, quelque chose qu'on peut mesurer, c'est quelque chose qui est mesurable et donc qui a un terme. « Que je sache combien je suis fragile. » Ailleurs, le psalmiste, chapitre 90, verset 12, dit ceci, « Enseigne-nous à bien compter mes jours. Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Donc il y a là réellement une leçon à retenir. La brièveté de notre vie doit nous inciter, nous qui croyons au Seigneur, Créateur de la vie, nous qui croyons que c'est lui qui nous a donné la vie, c'est lui qui la maintient, c'est lui qui la conduit, eh bien cette brièveté de la vie doit nous conduire à davantage réfléchir à nos actes, à nos choix de vie, à ce qui compte pour Dieu et à ce que nous devons faire en conséquence. Apprends-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Alors, vous l'avez compris, je ne parle pas ici de vulnérabilité liée à des situations de précarité sociale. Aujourd'hui, c'est un mot qu'on emploie souvent, vulnérabilité des intermittents du spectacle, des SDF, des femmes seules, des mineurs, des handicapés, des prisonniers, des immigrants, des personnes âgées, des lycéens, etc. etc. Je parle de notre vulnérabilité en tant qu'être humain, lié à cette modalité de vie, ce terme qui viendra et qui doit nous faire réfléchir à la façon dont nous conduisons notre vie, la façon dont nous conduisons notre vie. Vous rappelez-vous cette parabole de Jésus qui me vient à l'esprit quand cet homme qui amasse des trésors, qui amasse pour le lendemain, et le Seigneur dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Alors, je ne veux pas vous faire peur, je ne dis pas ça pour Vous croyez que je pense que demain vous ne serez plus là. Mais nos vies sont dans ses mains, oui, apprenons à compter nos jours. Nous ne voulons pas être des insensés, nous voulons vraiment tourner nos regards vers le Seigneur, agir sous son regard, agir en le consultant dans tout ce que nous faisons, pour lui demander vraiment son avis, et demander aussi l'avis aussi de nos frères et sœurs, pourquoi pas. Dis-moi quel est le terme de ma vie, quelle est la mesure de mes jours. Il est important de rappeler que cette mort qui frappe tout être humain venant à l'existence est la conséquence donc désastreuse d'une désobéissance à Dieu. Le péché dit originel n'est pas un mythe, mais malheureusement une triste réalité. Et si l'on veut comprendre réellement ce que représente le salut en Jésus-Christ, si l'on veut vraiment expérimenter pleinement ce qu'est la rédemption de nos vies, le pardon de nos péchés, la vie nouvelle, la vie du ressuscité en nous, ce que Jésus a accompli par sa mort et sa résurrection, si l'on veut comprendre tout cela et en vivre, il faut aussi assumer cette vérité dérangeante que le salaire du péché, c'est la mort, et que donc la mort du Seigneur vient balayer la mort. La mort est morte en Christ, alléluia, nous avons la vie en lui. Le salaire de la désobéissance au commandement de Dieu, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Le don de la vie, le don de Jésus-Christ contre la mort, c'est Jésus qui l'a donné. Jésus est la résurrection, frères et sœurs, et la vie. Et celui qui croit en lui, quand même, vivra, quand même il serait mort. Donc nous portons aussi à nous, chrétiens, cette vie, la vie du ressuscité. Alors, pour revenir à notre texte du psaume, l'expérience du psalmiste au verset 2 à 3, il dit « Je veillerai sur mes voies, de peur de pécher par ma langue. Je mettrai un frein à ma bouche. Tant que le méchant sera devant moi, je suis resté muet, dans le silence, je me suis tu, quoique malheureux, et ma douleur n'était pas moins vive. » On voit que le psalmiste affirme la réalité du péché dans sa propre vie, ou en tout cas la possibilité de, comme on dit, de péter les plombs. Du coup, il doit veiller sur ses voies, au risque de pécher par sa langue. Il doit résister à son désir de vengeance, tant que le méchant sera devant lui. Ah, des méchants, on en rencontre dans la vie. Hein. Je me suis tu. Le psalmiste dit, mais sa douleur n'en est pas moins vive. Si nous souffrons du péché, frères et sœurs, péché des autres, des offenses, des injustes, il y a malheureusement aussi notre propre péché qui offre une caisse de résonance au péché des autres. Notre propre péché amplifie en quelque sorte le péché reçu dans des proportions hors normes. Alors, effectivement, comme le psalmiste, nous souffrons. Puis au verset 5 et 7, le psalmiste, prenant conscience du cercle infernal du péché, reconnaît la précarité de sa vie. Versets 5 et 7. Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie, quelle est la mesure de mes jours, que je sache combien je suis fragile. On a lu tout à l'heure un autre texte dans les psaumes où il est dit que notre vie était comme la largeur de la paume d'une main. C'est petit, hein? Les matins, on pourrait regarder la largeur de notre paume, de notre main, et réfléchir un peu à la brièveté, à la précarité de notre vie. Alors oui, l'homme se promène comme une ombre, il s'agite vainement, il amasse et il ne sait qui recueillera. L'expérience du péché, aussi bien celui des autres que les nôtres, nous conduit, pour peu que nous soyons lucides et honnêtes, à voir la vanité et la folie de ceux qui se croient invulnérables, immunisés, toujours sûrs d'eux-mêmes, toujours convaincus de leurs bons droits. Est-ce que nous pouvons nous aussi dire comme le psalmiste, « Seigneur, Seigneur, que je sache combien je suis fragile, et qu'en regardant la largeur de la paume de ma main, je réalise combien ma vie est courte. » précaire, fragile. Je suis une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Alors que j'apprenne à te servir, Seigneur, que j'apprenne à te connaître, que j'apprenne à être un instrument de bénédiction entre tes mains. La vie est si courte pour se prendre la tête pour des broutilles. Que chaque fois que je me réveille le matin, je puisse dire, comme l'apôtre Jacques, si Dieu le veut, je vivrai. Si Dieu le veut, je vivrai, c'est ce que dit le texte. Si Dieu le veut, je vivrai ou je ferai ceci ou cela. Donner sa vie à Dieu, c'est décider de vivre en sachant que toute notre vie dépend de lui, vous le savez, y compris le temps que nous passons sur cette terre. Au verset 8, le psalmiste se rend à l'évidence. « Maintenant, Seigneur, que puis-je espérer ? En toi est mon espérance. En toi est mon espérance. » Il s'abandonne à Dieu. En fait, il rend les armes. Il abdique. Il est devant un impasse où même où le mène le péché. Sa pensée, sa réflexion ne peuvent aller plus loin. Le mystère de la mort et de la vie est entièrement dans les mains de Dieu. Alors cependant, comme lui, nous espérons. Ne croyons pas que parce que notre vie ne mesure que la largeur de notre main, que nous n'aurions rien à espérer ou à projeter. Accomplissons ce que nous avons à cœur de faire, faisons-le toujours sous le regard de Dieu, remettons-lui notre vie. Nous ne faisons pas des nœuds dans la tête, mais faisons ce que nous avons envie de faire, toujours sous le regard de Dieu, toujours conscient qu'en dernier lieu, c'est lui qui décidera, c'est lui qui fera réussir ou non nos affaires. Si Dieu le veut, oui, nous vivrons, nous ferons ceci ou cela. Ne nous glorifions pas dans nos pensées orgueilleuses. Comme le dit Jacques, c'est chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. Si notre projet échoue, nous pouvons toujours poser à Dieu la question, le pourquoi. Posons à Dieu nos pourquoi, il nous écoutera. Mais faisons-le dans une foi soumise. Faisons-le non pas avec arrogance, mais dans un esprit d'humble soumission. Parce que, justement, nous sommes des mortels. Comme le dit le psalmiste et Jacques, nous sommes une ombre. En hébreu, evel, evel, c'est le même mot que Kohelet, l'Ecclésiaste emploie pour dire vanité des vanités, un souffle, un rien. On n'a pas su vraiment bien traduire ce mot-là, un souffle, un rien, vanité. Cette vie est marquée par l'insuffisance, nous le savons, par le manque. On entend toujours, il y a du trop partout, moi je trouve, hein. Il y a du trop partout, on est toujours dans l'illimité. Mais cette illimité a un coût quand même. Donc, la réalité, c'est que cette vie est marquée par le manque et in fine par la mort, qui nous renvoie à notre finitude. Et celle-ci nous renvoie à notre destinée après la mort. Qu'est-ce qui se passe ? Que se passe-t-il après ? Disparaissons-nous définitivement ? Nous transformons-nous en atomes dans la nature ? Sommes-nous anéantis ? Pour nous chrétiens, notre espérance est en Christ. Christ en vous l'espérance de la gloire. Christ en nous l'espérance de la gloire. Par sa mort et sa résurrection, tous ceux qui s'identifient au Christ ont cette promesse qu'un jour, eh bien, nous ressusciterons, nous vivrons avec lui pour l'éternité. Pour conclure, seul l'Évangile est vraie espérance. Seul l'Évangile de Jésus-Christ a mis en lumière la vie et l'immortalité. Celui qui croit au Fils a la vie. Et c'est le moteur de notre vie de chrétien, frères et sœurs. Des choses extraordinaires ont été réalisées dans l'histoire de l'humanité par des hommes et des femmes qui, justement, croyaient au Christ, étaient motivés. Leur moteur, c'était vraiment le Seigneur, la vie éternelle. Ils vivaient pour Dieu et c'est ça qui les a fait faire des projets extraordinaires. Ils ont vraiment donné la vie dans des projets magnifiques qui ont soutenu justement les faibles. les précaires, les abandonnés, les paumés du chemin. La Bible nous dit que c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde et que par le péché, la mort est entrée, et qu'ainsi la mort s'est étendue à tous les hommes, parce que tous ont péché. Il n'y a pas d'exception. Et en même temps, si par l'offense d'un seul, tous sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Cette grâce, elle est à notre portée, elle est à ta portée ce matin, alors tu peux la saisir ce matin, tu peux saisir cette grâce. Elle est pour toi, elle est pour toi. Et nous, chrétiens, eh bien, qui vivons de cette grâce, ne nous en glorifions pas, mais soyons vraiment heureux de marcher avec le Seigneur maintenant qu'il nous a accueillis par sa grâce, justement. Nous pouvons bénir le Seigneur comme nous l'avons fait tout à l'heure par nos chants. Nous pouvons le glorifier, nous pouvons le servir de tout notre cœur parce que nous nous savons accueillis, comme l'a dit tout à l'heure Marie. Nous ne sommes pas abandonnés, nous sommes des fils et des filles adoptés. Alors ce matin, saisis cette grâce qu'il te fait. Ce matin, il t'appelle, viens à lui, viens à lui. Alléluia. Je vais prier.